Venez, venez, entrez! Le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes comme tous les lundis à 18h30. Et notre but, eh bien, il ne change toujours pas. C'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. En plus, là, il fait beau, on n'a pas... C'est vrai, hein? Il y a du monde sur les terrasses, on n'a plus d'excuses, il faut sortir. Et aujourd'hui, encore une fois, la palette de tout ce qui se passe à Bruxelles est vraiment énorme. Et elle est représentée ce soir par trois femmes. Bon, plus un homme qu'on a pu enregistrer parce qu'il est parisien et qu'il vient un soir... Mais quel soir jouer donc un spectacle dont je vous parlerai à la fin, mais que je vous incite aussi à venir voir. Mais donc, pas beaucoup de théâtre ce soir, mais de la musique, du spectacle, comme on dit, du spectacle vivant. Parce que c'est vrai que de plus en plus, les spectacles, ça se mélange. Il y a du théâtre, mais il y a de la musique, il y a de la musique, mais il y a des décors, il y a du cirque. Alors, ce qui a le plus changé, je trouve, c'est le cirque, non ?
Le cirque, on va dire qu'on continue à explorer plein d'autres arts et qu'on est très curieux.
Oui, c'est
on
ça.
Mélange tout. Mais en fait, on mélange tout depuis toujours. Hein. C'est juste que peut-être vous étiez à la vague un peu plus traditionnelle, mais en tout cas, au niveau du cirque contemporain, merci pour le bon grand de la bouche. Au niveau du cirque contemporain, les circassiens ont toujours été très explorateurs, très très globe-trotteurs aussi. Et donc, ils ramènent de partout dans le
oui,
monde.
Oui, mais de fait, voilà, mais très. Alors, on a de toute façon ici trois chefs d'orchestre, hein, trois dames orchestres qui savent tout faire. C'est pas une seule chose. Bon, alors, la première qui va passer, c'est Joëlle Strauss, que beaucoup de gens connaissent.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, bon, c'est aussi. J'ai trois femmes
bonsoir.
Très énervantes ici autour de la table, de toute façon, parce que Joëlle, elle est belle, elle est gentille, elle sait tout faire. Donc, violon, piano. Et alors, quand elle chante, je pleure. Mais donc, je sais pas, il faut pas chanter. Et donc, elle vient pour nous présenter un spectacle qui passera ce jeudi au Wall. Alors, est-ce qu'il a un nom, ce spectacle ? Parce que c'est avec le trio, mais...
C'est un spectacle qui raconte l'histoire de la musique klezmer depuis l'Europe de l'Est jusqu'à Buenos Aires, en Argentine.
Alors, on en parle tout de suite, mais je voudrais vous présenter donc celle que vous avez entendu parler malgré son bonbon, qui est Madame Magiste, qu'on a toujours appelée Madame Catastrophe. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait.
Exactement, ça ne change pas.
Exactement, qui vient nous présenter le Up Festival.
Et ça va démonter, déménager dans tout Bruxelles, encore une fois.
C'est ça, de toute façon, chez vous, ça déménage. Hein.
Oui, souvent,
on saute
souvent.
En l'air, on redescend, on nous cache, enfin, on nous perd, on nous retrouve. Il y a de la magie, il y a de tout.
Il y a vraiment de tout, et cette année, encore plus que jamais.
Voilà, et entre guillemets du monde entier
les quatre coins du monde, parce que déjà quand on est au quotidien à Up, hein, donc qui est l'ancien espace catastrophe, on a déménagé, on est à Up dans les anciennes imprimeries de Deleuze, on y est très bien et on est encore plus accessible parce qu'on est à côté de la gare du Midi, à côté de tout. Donc les circassiens, les performeurs, les comédiens physiques, les danseurs, se ruent à Up et voilà, ça butine et c'est une vraie ruche et c'est très chouette.
Voilà, et puis on entendra donc Ariane Rousseau, qu'on reçoit pour la première fois. Je suis très contente de la recevoir. Alors j'ai dit, oh, mais je ne vous connais pas tellement. Et puis en se parlant, je dis, mais ça, j'ai vu quand vous jouiez ça, mais ça, j'ai vu quand vous... D'accord, donc en fait, elle est comédienne au départ, metteuse en scène, et donc tout ça, j'ai vu. Et je n'avais pas fait le rapprochement. Elle nous dira toutes ces multiples vies. Mais je vous dis, on a ici des femmes exceptionnelles. Et on est reparti alors avec le klezmer. Si on commençait par dire, qu'est-ce que c'est la musique klezmer ?
La musique klezmer, c'est la musique juive d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, tout simplement. Voilà. Et donc, ça englobe aussi le yiddish, si vous voulez. Le yiddish, c'est la langue de la musique klezmer. J'aime bien dire ça comme ça.
D'accord. Mais du siècle passé.
Pas plus vieux
que ça.
Ben, c'est la,
ça commence quand
le yiddish vient du Moyen-Âge. Donc la musique klezmer, à mon avis, a dû commencer à cette époque-là.
C'est ça. Et donc, dans ce spectacle-ci, vous allez raconter l'histoire du klezmer ?
Alors, je ne raconte pas l'histoire du klezmer, je raconte l'histoire de l'immigration en Argentine.
Ah oui ?
Donc, si vous voulez, quand le tango est né en Argentine, il y a eu une immense immigration juive qui correspond plus ou moins à la naissance du tango. Et donc, tous ces musiciens juifs sont arrivés en Argentine, à Buenos Aires, en pleine effervescence du tango. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont mis à jouer ? Évidemment, ils se sont mis à jouer du tango. Alors, ça ne plaisait pas toujours aux mamans qui leur rêvaient un avenir classique de grand concertant, mais voilà, le travail était là, dans les bordels, dans les bas-fonds de Buenos Aires, où on jouait du tango. Alors après ça, le tango a évolué. À l'époque, il y avait aussi énormément de musique klezmer, surtout dans les trois grandes capitales du yiddish, qui étaient Buenos Aires, Varsovie et New York. Et en fait, les musiciens, les chanteurs du monde du théâtre yiddish, parce que le théâtre yiddish était un théâtre qui était un théâtre chanté également, eh bien, ils voyageaient énormément entre toutes ces capitales. Et donc, ils ont pris le tango dans leur bagage, les ramenant à l'Est. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est commencer par de la musique vraiment klezmer. On continue jusqu'en Argentine, où on joue le tango yiddish. Ensuite, on joue les tangos de Astor Piazzolla pour vraiment terminer par les tangos modernos, le tango...
que tout le monde connaît.
Voilà, le tango moderne, qui est quand même un tango... c'est pas le tango de Carlos Gardel, hein, c'est vraiment un tango plus classique qui se danse moins que le tango yiddish.
Alors, quels sont les instruments au départ du klezmer klezmer classique, on va dire, de base?
Alors, le klezmer, c'était, il y avait la flûte.
Ah oui.
Il y avait la flûte, le violon et le cello, qui était un instrument comme un violoncelle, comme ça, qu'on pouvait emmener partout. En fait, les instruments de base du klezmer sont les instruments qu'on pouvait prendre sur le dos et partir de jouer d'un endroit à l'autre.
Et donc pas la clarinette alors?
Et la clarinette, elle n'est arrivée qu'au début du XXe siècle, parce que le violon est un instrument qui est vraiment très très difficile à enregistrer. Et donc quand le disque a commencé à prendre de l'ampleur, il fallait enregistrer. Et donc le violon n'était pas pratique. Et c'est comme ça que la clarinette a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur dans la musique klezmer, parce que la clarinette était un instrument qui était facile à enregistrer.
Est-ce que vous connaissez, mesdames, la musique klezmer?
J'adore.
Alors, les circassiens, on en raffole. Et le tango est une musique qui est souvent, souvent utilisée dans les dynamiques de spectacle, etc. Parce qu'il y a ce côté action-réaction. Et puis, il y a aussi une tellement vaste palette d'émotions qui passent dans ces musiques-là, que c'est souvent un support, même si après, il n'est pas nécessairement gardé dans les représentations. En tout cas, comme élément moteur et déclencheur de création, d'écriture ou de composition de partitions physiques et corporelles, aériennes, jonglistiques, etc.
De rythme,
c'est vraiment
oui.
Quelque chose qui est vraiment super...
Et Ariane, elle a déjà chanté du klezmer?
Un petit peu, mais peu, mais un petit peu.
Il faut une voix particulière. Enfin, Joël, tu as une voix... émouvante, qui va très bien avec le klezmer. Je ne sais pas si c'est...
Oui, alors, je ne sais pas. Moi, j'ai la voix que j'ai quand j'ouvre la bouche. Je ne sais pas quoi dire.
Non, ce n'est pas la même quand tu chantes.
Non, mais je veux dire, je réfléchis à rien quand je chante. Je ne réfléchis pas à mettre ma voix d'une certaine façon. En fait, je chante comme je parle. Donc, j'ai pris des cours de chant, oui. Mais je n'ai jamais essayé de changer ma voix ou de moduler, parce que je trouve que une voix, c'est quelque chose qui raconte une histoire. Et donc, je ne serais pas capable de raconter une histoire et d'être moi-même en devant déjà commencer à chercher une façon de chanter, etc.
Le klezmer n'est jamais arrivé dans ta vie, comment?
Le klezmer est arrivé quand j'étais assez petite, parce que mon papa était un fou de radio. Il adorait écouter tout ce qu'il y avait à la radio. Il était un fou de musique du monde aussi, un fou de voyage. Et il y avait certaines émissions qui passaient la nuit d'Europe de l'Est, etc. Et donc, mon papa me les faisait écouter. Et c'est comme ça que la musique d'Europe de l'Est et la musique klezmer est rentrée principalement dans ma vie. Puis après, j'ai commencé évidemment à étudier. Ça a toujours été mon rêve. Quand j'ai rencontré Elsa de la Cerda, une violoniste magnifique avec qui tu as joué, Ariane.
Avec qui on a travaillé ici.
Ben voilà, exactement. On jouait.
Chroniqueuse chez nous pendant tout un temps.
On jouait l'une à côté de l'autre à l'orchestre, et je lui disais toujours, Elsa, mon rêve, c'est de faire de la musique klezmer, et le jour où je sais en vivre, j'arrêterai tout le reste. C'est ce que j'ai fait.
Mais donc, la première chose a été le violon, c'est ça?
Non, j'ai chanté en même temps que j'ai joué. Alors, le violon, j'ai commencé à 4 ans, mais moi, je suis d'origine suisse, donc on chante à la maison, on chante les chants suisses, on chante pour les fêtes, on chante tout le temps. Les chants suisses, bah, c'est l'hymne vaudois, c'est bah, les, bon, les chants c'est suisses, c'est le, l'histoire du chalet, c'est voilà,
l'appel
c'est...
du chocolat, les montagnes.
On ne connaît pas tellement. Hein.
Bon, ce sont des très très beaux chants. Et donc le chant fait partie de la, ma vie. J'ai chanté aussi dans une chorale quand j'étais toute petite. J'ai été soliste de cette chorale et j'ai commencé le violon quand j'avais 4 ans. Donc c'est le chant, le violon, le piano est venu très très vite aussi. Donc, c'est trois instruments que j'ai toujours pratiqués.
Et puis, il y a un peu de comédie qui est venue, non ? Puisque maintenant, tu racontes vraiment des histoires.
Oui.
Tu lis, tu racontes des contes.
Je donne des contes pour enfants aussi à la ville de Bruxelles, tout à fait.
Oui, c'est ça.
Je raconte l'histoire d'une petite fille qui immigre aux États-Unis via la gare d'Anvers. Bon, l'histoire commence un petit peu comme l'histoire d'Irving Berlin. C'est une petite fille qui vient d'un shtetl en Europe de l'Est. Son village a été brûlé et puis elle arrive tant bien que mal à Anvers. Et d'Anvers, elle va prendre la Red Star Line et elle immigre aux États-Unis. Et donc, je raconte toute cette histoire en chantant, en jouant, en comptant. Oui, et je raconte Pierre et le loup aussi.
Mais oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, aussi. Oui, voilà. Oui, c'est venu comme ça, je sais pas, mais... J'aime bien causer, hein, donc. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences, parce que c'est quelqu'un qui m'entendait au concert qui m'a dit « Ah oui, tu devrais parler plus ». Je dis « Oui, mais en fait, je devrais parler moins, parce que là, c'est un concert, les gens veulent écouter. » Et parfois, on me disait « Oui, surtout mon mari me disait parfois « Parle un tout petit peu moins ». Et donc, elle est venue me voir et elle m'a dit « Mais viens chez moi et tu peux parler autant que tu veux ». Et donc là, j'ai commencé à donner des conférences.
C'est très agréable, parce que justement, quand on vient te voir en concert, on va peut-être pas tous, hein, on va voir... Pour m'expliquer comment ça va se passer celui-ci, mais justement tu expliques, tu racontes, et c'est ça qui rend la musique savoureuse et je trouve qu'on apprécie encore mieux quand on connaît le contexte de ce qu'on va entendre.
Et quand on joue, c'est ça, quand on joue les musiques du monde, c'est tellement triste de ne pas savoir ce qu'on entend, et surtout que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas la langue que je chante. Donc, si je chante en polonais ou si je chante en yiddish ou en espagnol ou en portugais, les gens comprennent pas. Donc, je trouve que c'est quand même un immense apport de pouvoir expliquer avant
mais oui.
ce qu'on va entendre et ce qui va suivre.
J'adore les musiciens qui parlent. Mais c'est sans doute parce que je ne suis pas assez mélomane, tu vois, c'est vrai. Mais donc j'aime qu'on m'explique, en fait. J'aime toujours qu'on m'explique. Moi.
Mais parfois, raconte, c'est dangereux aussi parce que si à chaque morceau, on explique, on chante, finalement, on casse le rythme d'un spectacle. Donc, il faut aussi parfois se dire, bon, quand on est vraiment dans un concert, eh bien, il faut choisir les moments.
Bon, et qu'est-ce qu'on fait ? On parle des deux autres du trio ou ça ne vaut pas la peine ?
Mais avec grand plaisir. Marc Groels à la flûte traversière et Christophe Delporte à l'accordéon, de merveilleux musiciens.
Oui,
aussi sympathiques que merveilleux musiciens.
Et mondialement connus. Enfin,
et mondialement connus.
Ne soyons pas trop modestes, c'est quand
non,
même...
c'est vrai, tout à fait.
Alors, vous faites tous les trois là, des voyages...
On voyage pas mal, oui.
C'est ça.
Ensemble aussi, ça c'est chouette.
Vous avez un succès. Vous avez quelqu'un qui vous fait des tournées comme ça Comment ça se passe
Comment ça se passe pour les concerts? Eh bien, généralement, il y a quelques agents selon les pays. Et puis, le reste du temps, en fait, c'est le bouche à oreille.
Des anciennes relations.
Ça. C'est... Mais en fait, maintenant, de plus en plus, les organisateurs de concerts n'aiment pas travailler avec les agents. Parce que c'est un intermédiaire, il y a un côté moins humain et donc ça arrive de plus en plus où en fait les festivals disent oui mais pas avec un agent. Hein.
Ah bon. Donc en direct.
Bon, oui, en direct. Donc il y a les deux. Il y a via agent et il y a via il y a direct.
Ça complexifie parfois les choses. Ça
oui.
prend plus de temps.
Oui. Ben en fait nous on doit tout faire. Hein. On doit tout faire. On doit être derrière notre ordi, vendre le truc, jouer.
C'est un peu pareil chez nous. Hein.
Voilà,
enfin,
oui.
Je pense que dans tous les modes d'expression.
Exact.
Et puis si tu es porteur de ton projet finalement, c'est quand même toi qui es le plus à même d'en parler ou de le gérer. Après, je dis pas que c'est agréable de faire de l'administration et tout ça, mais moi je me rends compte aussi qu'il y a tellement, il y a de plus en plus d'intermédiaires en fait dans la production artistique que ça devient un peu compliqué parfois et que des choses qui peuvent se résoudre normalement assez facilement prennent tout de suite beaucoup d'ampleur.
Parce mais que parfois, ce n'est pas évident de se vendre non plus. Hein. Et les gars, prenez-moi, je suis géniale.
Non, mais quand tu es pris...
Je ne sais pas. Parfois, tu dis, bon, voilà.
Quand tu es pris après dans l'organisation, moi, je trouve aussi qu'il y a de plus en plus, c'est comme les projets européens, c'est comme les subventions de projets. Ça devient très bureaucratique, il y a des couches dans tous les étages et on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent parce que je pense qu'il faut de toute façon rémunérer chacun. Bah donc, quand il y a autant d'intermédiaires, ça devient un peu fatigant. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis, mais en tout cas, sur le coup, je pense que des fois, on pourrait gagner tant d'énergie pour aller... Finalement, parce que qu'est-ce qu'on cherche aussi comme organisateur, c'est d'être en contact et de mettre en relation un public et des artistes et de faire circuler des choses. Et donc, c'est vrai que si finalement, quand tu organises, tu ne vois juste que la personne qui rentre sur le plateau, qui salue et qui s'en va et qui reprend son avion, bah, c'est pas super excitant. Enfin, moi, j'ai la chance de ne pas être dans cette condition-là. Oui. Mais voilà, je sais que ça, c'est un peu... comment dire, ça peut handicaper
ça alourdit,
un petit
ça
peu
alourdit.
Et ça alourdit les
voilà.
choses.
Alors, est-ce qu'on va enfin écouter de la musique? Qu'est-ce que tu as choisi comme musique?
J'ai choisi un air rom, pas Chopagnoli, c'est un air rom d'une grande star de la musique tzigane qui s'appelle Vera Bila. Oui, donc pour commencer, ce jeudi à 20h au Wall de Woluwe Saint-Pierre. Ensuite, pour ceux qui sont à la mer, ce week-end, on est à Ostende, près d'Ostende, à Bekegem, le 24. Mais plus près d'ici, on sera le dimanche 14 avril à 11h11, au concert de 11h11, exactement 11h11, c'est tout à fait vrai, à l'atelier Marcel Astier. Ce sont des concerts qui se donnent chaque dimanche à 11h11, exactement. Et puis aussi le 21 avril, là, ce sera plus avec la Stork Lesmer, je serai avec un quintet avant et là, je raconterai l'histoire de Pierre et le loup à Waterloo, à l'église Saint-Paul, à 15h. Et ça, c'est pour les dates par ici. Sinon, pour ceux qui aiment voyager, je présente aussi un voyage sur le Pérou le 16 avril dans les locaux du soir parce que j'accompagne les voyages le soir en tant que conférencière et musicienne. Et donc, j'ai la chance de pouvoir jouer un peu partout dans le monde, comme ça, dans des endroits absolument magiques en racontant l'histoire du pays. Voilà, j'ai fait ça dans le sud de l'Espagne avec le flamenco, j'ai fait le long du Douro au Portugal, et là maintenant je serai au Pérou en octobre, donc si ça intéresse certaines
ça
personnes,
fait envie, hein.
Ils sont les bienvenus avec les lecteurs
le
soir.
Du soir.
Oui. Non, 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 vous pouvez venir via moi aussi, voilà.
Moi j'aime bien ta vie.
Voilà, pour les prochaines dates.
Détail, je ne joue pas de violon, ni de pied. Bon, mais sinon, voilà.
Si vous voulez des détails, il vous suffit d'aller sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook pro.
Donc,
et donc, public, quoi. Et donc, c'est peut-être
Joël
le plus
Strauss,
facile.
C'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, Strauss, ça s'écrit S-T...
R-A-U-S-S.
Voilà.
Voilà.
Et on retrouve tout. Voilà, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et on passe alors au cirque. Alors, donc, on a reçu un joli petit papier. Donc, du 21 mars au 1er avril.
Oui, ça fait 12 jours.
D'ailleurs, voilà. Alors, 12 jours, 15 lieux, 28 spectacles, 63 représentations. Si là-dedans, vous ne trouvez pas ce qui vous plaît.
Voilà, et environ 150 artistes qui viennent, comme on l'a déjà dit, hein, des quatre coins du monde.
Et on les loge où, tous ces
gens? Eh bien, on les loge un petit peu partout. Bah, ceux qui viennent avec leur chapiteau logent dans leur caravane et sur leur charroi, ce qui est le cas, par exemple, du Magdaclan, qui est arrivé cette nuit et qui a installé, enfin qui est en train d'installer son chapiteau sur notre esplanade, puisqu'on a quand même 3000 mètres carrés en extérieur juste devant chez nous. Ça permet de mettre quand même quelques chapiteaux. Et donc, ben voilà, les caravanes sont là, même la cuisine, enfin tout se met en place. Et puis, ben on les loge aussi chez les habitants parce qu'on trouve ça chouette, que c'est une autre manière de rencontrer les gens, les artistes, la ville. Et puis dans des hôtels, des Airbnb, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
On est créatif.
On est créatif et Bruxelles devient un petit peu compliqué pour ça, mais on y arrive encore, ça c'est bien.
Alors, dans tous ces spectacles, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas pouvoir...
On ne va pas tout voir, on ne va pas pouvoir... Si, on peut tout voir, parce que c'est organisé de manière à ce que, en fait, si on passe une soirée, on peut enchaîner 3 ou 4 spectacles sur toute la soirée. On circule dans Bruxelles, on ne fait plus les bus parce que c'est trop compliqué de circuler dans la ville, et d'autant qu'on est juste à côté de Bekent et Ossegem, et que toutes les lignes de métro arrivent jusqu'à chez nous et vont vers les principales scènes, puisque dans les partenaires, on a, comme d'habitude, les Halles de Scarbeck, Volubilis, le Marny, le Théâtre Varia... Archipel 19, la MCCS, le Centre culturel de Huc, les gens n'oublient certainement, voilà, je suis désolée pour ça. Et puis, comme nous avons nos nouveaux espaces et qu'on a de la place pour les chapiteaux, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent à USP. Maintenant, on a aussi une boîte noire, la Black Box, qui est une salle de représentation. Donc, il y a pas mal de représentations qui se font aussi là. Et puis, on a aussi de la programmation dans des espaces un petit peu plus bizarres. Et donc, autour de chez nous, il y a des espaces un petit peu plus bizarres. Et puis, on a aussi des spectacles en appartement. Donc, ça, c'est un concept qu'on développe déjà depuis 3 éditions. Et là, par exemple, ça s'appelle Living. Voilà. Et donc, il y aura des spectacles dans le living de notre voisin d'en face, qui nous a mis son loft à disposition. Dans un lieu...
Un peu moins d'acrobatie dans le salon
de
cette
madame.
Ah bien,
non. Non, non, non. Acrobatie, loft, hein. Musique, art visuel, manipulation d'objets et autres. Alors, de ce même concept living, il va y avoir une présentation chez un brocanteur vintage et puis dans une maison de repos à la Mélopée. Voilà. Donc, et c'est un concept... L'idée, c'est d'amener le spectacle au plus près des spectateurs, de ceux qui se disent qu'ils n'ont pas l'occasion de bouger ou qui ne se disent pas que le spectacle s'est fait pour eux. Et ça, c'est un petit peu le leitmotiv des circassiens depuis toujours. Hein. On installe les chapiteaux pour aller au plus proche de la population. Maintenant, c'est vrai qu'on a des spectacles qui sont très, très imposants avec des compagnies où ils sont 10, 12, 15, ou bien des machineries assez incroyables, une roue de la mort et des choses comme ça. Et donc, les belles scènes bruxelloises, les grandes scènes bruxelloises, les grands plateaux qui ont des bonnes équipes techniques et tout ça, peuvent accueillir alors des formes vraiment plus vastes de cirque contemporain, acrobatique, musical, chorégraphique, visuel, de toutes sortes en fait. C'est ça qui est assez fascinant et on ne s'embête jamais. Et en fait, la force du cirque aussi, c'est que souvent c'est sans parole, même si ça peut être théâtral ou plus chorégraphique ou plus... Donc, c'est généralement sans parole, pas tous. Et ça peut avoir différentes lectures. Donc, on a, par contre, il y a des cirques ou des spectacles qui sont très, très pointus et très, très contemporains. Donc, sur le site, en fait, on a vraiment essayé, comme la diversité est énorme, de faire des propositions où il y a des photos, des images, des âges conseillés, des teasers.
Parce qu'il y a des âges aussi. Hein, il y a...
Oui, oui, oui.
Alors,
oui.
Ça commence à quel âge?
Eh ben, il y a des spectacles qui commencent, on va dire... après, il y a des spectacles tout public, mais il y a aussi du cirque spécial pour le jeune public. Donc, une écriture spécifique pour le jeune public, comme c'est, par exemple, le cas de Mire, qui va jouer à la MCCS, qui, lui, est conseillé à partir de 7 ans. Puis, comme Petroleo, qui va être joué au Bronx, chez nos amis néerlandophones, qui est un théâtre jeune public... néerlandophone, où là, c'est à partir de 7 ans. Petroleo, ils envoient des anneaux dans tous les sens. Ils sont venus avec des camions d'anneaux de jonglerie, de toutes les couleurs, c'est très visuel. Et puis, on a des spectacles vraiment où on encourage les familles à y aller ensemble. Par exemple, à Wolubilis, le spectacle Ouba. C'est vraiment un spectacle intergénérationnel avec des circassiens. La plus âgée doit avoir 60 ans et sur le plateau, je veux dire. Et le plus jeune devrait avoir, je ne sais pas, au moins 17-18 ans. Donc, il y a vraiment une mixité incroyable. Il y a aussi un spectacle de cirque et montage d'objets, manipulation. Ça s'appelle Pling Plong. Et ça part autour du concept. C'est un duo de deux jeunes hommes assez incroyables qui essayent de... Bon, qui dialoguent autour de la vie, de leur vie, occupés à essayer de monter un meuble Ikea. Et, oh, je n'aurais pas dû citer un meuble. Mip ! Voilà. Sinon, on a les thématiques qui sont abordées sont très très vastes. D'ailleurs, on peut l'entendre dans les titres. Conversation avec la mort. Ça tente pas tellement les gens de venir voir. Eh bien, si. C'est un circassien jongleur manipulateur chilien qui, justement, aussi accordéaniste et assez branché sur les musiques tango, etc. Qui, en fait, imagine quelle serait sa dernière journée. En tant que jongleur, artiste circassien sur le plateau, s'il venait à disparaître, what's happening? Donc, ça parle de la mort, c'est plein de questions, mais en même temps, c'est pas triste et morbide, voilà. Et puis alors, il y a des spectacles comme par exemple Révolte ou La tentative de l'échec. Ça, c'est un quintet de femmes qui s'approprie un plateau et des choses incroyables, donc des fils à des hauteurs, des fils de funambule, une roue de la mort, toutes sortes d'agrès qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, et qui se posent la question de leur place à elles dans le groupe et les petites bébêtes perso et comment on peut interagir et quand on a la haine, quand on a la hargne, comment est-ce qu'on peut faire pour finalement essayer de s'en sortir même si la révolte nous hante et nous gagne. Il y a des spectacles, un super spectacle encore, c'est le petit théâtre de gestes.
On va pas parler de tous les spectacles, mais
non, n'y est pas, mais ça c'est Décrochez-moi ça. Ça c'est un petit bijou. Je pense que les auditeurs de Judiaïka sont certainement déjà venus voir soit le cirque Trottola avec Laurent, qui est un des fondateurs de la compagnie Petit Théâtre de Gestes, qui jouait dans ce spectacle-là, soit Bête de Foire, qu'on avait accueilli l'édition il y a 4 ans d'ailleurs. Et là, en fait, Elsa est costumière scénographe. Et elle monte pour la première fois sous la toile et sur le plateau avec son mari, Laurent Cabrol, qui lui est manipulateur jongleur. Et donc, c'est un espèce de bestiaire-vestiaire, et les partenaires sont des costumes fait par Elsa, et c'est un univers tellement beau, c'est fait de briques et de brocs, mais c'est juste incroyable musicalement, il y a des bruitages, il y a ces costumes qui se mettent en vie.
Et ça s'appelle comment?
Et ça s'appelle Décrochez-moi ça.
Ah oui, d'accord.
Voilà, mais il y en a plein, hein. Je peux vous parler
non,
de...
Non, on ne peut pas tout, on ne peut pas...
Il y a Histoire de laine. Histoire de laine, ça, il faut venir le voir, ça c'est sûr et certain. C'est un artiste plasticien accompagné d'une pianiste qui, en fait, crée toute une histoire avec un brin de laine et du vent et des ballons de baudruche. C'est juste un petit bijou. Voilà, il y a Fora aussi qui est incroyable, Alice Rende qui vient d'Argentine. Il y a beaucoup de Sud-Américains chez nous.
Je crois que vous aimez beaucoup vos artistes.
Hein. C'est pas mes artistes parce que chacun n'appartient qu'à personne, mais en tout cas, nous, en fait, le festival, on est un lieu de création, une maison de fabrique de spectacles. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas de la programmation pour faire de la programmation. C'est vraiment généralement des gens qu'on accueille avec qui on a des morceaux d'histoire, des morceaux de vie. Alors, un peu beaucoup passionnément, parce que maintenant, j'ai quand même passé la cinquantaine. Donc, on en a vu déjà des générations. Et c'est ça qui est gai, de voir aussi que c'est un art qui se renouvelle, mais de voir l'évolution des choses. Le Magda Clan, par exemple, ils ont commencé leur spectacle sous chapiteau chez nous il y a 20, 20 ans peut-être. Et là, maintenant, ils viennent, ils sont papa, maman, ils viennent avec toute
la famille. On va sur le site
upupup.be.
3 up.
Upupup.be. Et puis là, on clash festival et puis on peut avoir la programmation par jour, par lieu. On a des photos, des vidéos, des teasers.
Et il y a marqué si c'est complet ou pas.
Il est marqué si c'est complet, mais c'est super facile au niveau de la billetterie. Et je voulais juste rajouter une petite chose. C'est que pendant... Donc, ce festival est lié à notre lieu de création, notre maison de fabrique. Mais on travaille beaucoup à l'international. Et donc, pendant la journée, pendant que les spectateurs sont au travail, eh bien, nous aussi, on travaille, on réseaute. Et on fait, il y a toutes sortes de rencontres, tables rondes. C'est un peu le marché du spectacle. Et cette année, on met un gros focus sur... Il y a un focus Asie, un focus Québec et un focus catalan. Et donc, ça va être vraiment l'occasion de mille et une rencontres avec des présentations de projets, les artistes qui cherchent des sous, des lieux de résidence, etc. pour leurs nouveaux projets. J'ai reçu plus de 100 candidatures. Il y en a 30 qui ont été sélectionnées. Et ça va faire du monde et ça va faire des gens. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment intéressé, curieux, me faire un petit mail. Et je peux faire peut-être parfois des petites exceptions pour ceux qui ont vraiment envie aussi de découvrir les coulisses du cirque et d'une maison de création, en fait.
Alors Ariane, voilà. Elle va aller voir quoi?
Moi, j'irais bien voir Reclaim, là.
Ah bah oui, voilà. Tu peux prendre un pass à l'heure. Ah ouais.
Oui, mais bon, c'est du mal, moi, aller tout voir.
Qu'est-ce qu'elle choisit?
Mais Joël, elle va d'abord regarder tout et bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit.
Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre un pass et tu viens voir?
Oui, c'est ça.
Et donc, le pass,
jouer aux fléchettes.
J'ai déjà pris un bonbon sur le coup. Bah, le pass, c'est, eh bien, ça vous pouvez avoir un pass 3 spectacles ou un pass 5 spectacles et ça fait des prix tout à fait cassés.
Hors catégorie.
Super. Qu'est-ce qu'on va écouter comme musique?
On va écouter un petit Pierre Grapsat, tiens, qui vient de ma région, pas loin de chez moi, la Verviers. Qui vient toujours.
Il voit les arbres pousser sur une table dans un jardin japonais. Il a des fleurs par milliers impérissables, les murs en sont tapissés. Souvent il joue au ballon dans un coin du living avec une balle de ping-pong. Il trouve sa chouette un building, l'enfant du 92e. Un placard et son grenier, ses grands espaces, un appareil de télé. La nuit, les flats éclairés du bloc en face sont des lucioles figées. L'école est dans la cité, il fait en ascenseur le chemin des écoliers. Il rentre toujours à l'heure, l'enfant du 92e. L'enfant du 92e. Sable blanc, il part au Sahara quand un soleil rare sur le balcon se répand. Il sait comment patiner l'été comme en hiver sur un parquet bien ciré. Il réinvente l'univers, l'enfant du 92e. L'enfant du 92e.
Ariane Rousseau, très heureuse de vous recevoir.
Bonjour, bonsoir.
Alors, au départ, moi, je dis, je suis très contente parce que vous venez présenter un spectacle. Il a un nom, le spectacle La Femme du Vent.
La Femme du Vent, qui est un titre d'une chanson de d'Anne Sylvestre.
D'Anne Sylvestre. Alors, je me suis dit, tiens, c'est très chouette de l'inviter parce que j'aime beaucoup Anne Sylvestre. J'aime aussi beaucoup le lieu où ça se passe. Donc, c'est à l'Allumette, qui est un, on va dire, un café-théâtre privé.
Tout à fait.
À Forêt, chez Rina Horowitz, qui vient donc tous les mois ou parfois deux fois par mois, fait venir des petits spectacles chez elle dans un lieu très intime. Donc ça faisait déjà deux bonnes raisons. Je me suis dit, ah, je ne la connais pas, cette chanteuse. Et puis finalement, en parlant, je me dis, ah, mais elle a déjà fait la mise en scène de tiens, de ce que. Voilà. Et ah, mais elle a joué dans ce que j'ai vu. Et, ben, d'accord. Donc au départ, qui êtes-vous? Alors vous êtes plutôt comédienne?
Au départ, je suis même criminologue, moi.
Voilà, mais ça, j'ai pas assisté.
Non, on ne s'est pas connus à cette époque-là. Non, après, j'ai commencé par chanter. Je suis vraiment mélomane et j'ai grandi dans une famille de mélomanes, de musiciens aussi, avec un grand-père qui était organiste. Ma maman chantait avec son papa au piano et on chantait beaucoup à la maison, on écoutait énormément de musique. Et puis, j'ai commencé par faire du chant, j'ai fait du chant jazz, j'ai fait de la chanson française. Et puis, je suis devenue comédienne. Mais parallèlement, j'ai continué à chanter. Donc, j'ai fait un groupe, un trio polyphonique avec lequel j'ai plusieurs fois joué chez Rina, à l'Allumette, avec deux amis, Muriel Legrand et Julie Leder, qui sont également comédiennes et chanteuses comme moi. Et puis, parallèlement, j'ai beaucoup travaillé dans pas mal de théâtres avec beaucoup de gens différents. Je ne suis pas attachée à une famille de théâtre. Voilà, je viens de mettre en scène chez Colette, puisque vous aviez reçu oui. Nathalie Fenner il n'y a pas longtemps. Et puis, on s'est vu donc Le Dieu du Carnage, qui est repris l'année prochaine au Théâtre Le Public.
Oh, c'est un des meilleurs spectacles de l'année.
Hein, alors voilà. pour ceux qui veulent, le mois de décembre prochain, nous reprenons et nous partons deux mois en tournée, janvier, février prochain également, dans les centres culturels en Belgique, dans pas mal de centres culturels, et notamment au Lublis aussi, je pense. Et on joue aussi cet été à Bruxelles, au Festival Bruxelles. Ah, oui. Mais voilà, pendant le Covid, en fait, justement, le Théâtre Public a proposé qu'on propose des choses qu'on crée chacun un petit peu chez nous. Et avec mon ami de très longue date et artiste merveilleux, le pianiste Éric Bribosia, on a décidé de rendre hommage à Anne Sylvestre, qui avait bercé mon enfance avec quelques chansons pour adultes, parce que ma maman aimait bien... certaines chansons d'Anne Sylvestre, en tout cas, qu'elle chantait notamment en duo avec Pauline Julien à l'époque, mais aussi les Fabulettes, qui étaient ses albums pour enfants. Et en fait, c'est une femme qui a composé plus de 700 chansons. Il y a 17 albums de Fabulettes, donc moi je connaissais un album des Fabulettes, mais j'ai découvert avec mes enfants qui en avaient plus que ça. Et puis quand je me suis attaquée entre guillemets, mais à cet hommage, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément. On n'a même pas pu tout écouter. Je découvre encore aujourd'hui des chansons d'Anne Sylvestre, dont je suis totalement fan. Et donc, avec Eric, on a choisi, une petite quinzaine de morceaux qui, à la fois, étaient représentatifs de son univers, c'est-à-dire c'est une femme, c'était une femme, parce qu'elle est morte il y a deux ans maintenant, très engagée. Donc, il y a des chansons très engagées. Il y a des chansons...
Engagées, féministes, non
engagée... Très féministes. Il y a une chanson « Non, tu n'as pas de nom » qu'elle a écrite dans les années 70 en faveur de l'avortement. Elle a écrit une chanson qui s'appelle « Maison douce » qui parle en fait du viol collectif, mais avec une métaphore d'une maison très jolie un peu en dehors de la ville. Et puis qu'on a saccagée. Et puis, elle n'avait qu'à pas mettre des petites fleurs à ses fenêtres, et puis sa porte est toujours ouverte, enfin voilà. Donc elle a écrit des chansons vraiment avec une plume intelligente, c'est chaque fois des petites histoires aussi. Donc comme interprète, comédienne, en fait, j'étais vraiment assez passionnée par le fait de raconter chaque fois une histoire. Donc ce sont des chansons assez longues, assez complètes, et qui sont très, très bien construites. Il y a des chansons plus intimistes aussi, et puis des chansons drôles, parce que c'est une femme qui avait beaucoup d'humour. Donc, heureusement, le spectacle est un petit peu balancé entre ces trois choses. Et puis, on a aussi décidé de On a écouté beaucoup d'interviews d'elle, et donc on a décidé de mettre des extraits d'interviews, mais que je dis à la première personne, parce qu'on ne voulait pas être didactique, mais on voulait parler. Moi, j'aime aussi beaucoup parler comme Joël pendant les spectacles. J'ai fait plusieurs spectacles avec le Quatuor Alfama où je parle et je chante un petit peu, mais surtout, je parle. Et ici, donc, le concert est ponctué d'extraits d'interviews d'Anne Sylvestre.
Alors, voilà, je vais vous étaler ma culture anne-sylvestrienne.
D'accord.
Non, oui, ça va être rapide. Mais d'abord, en fait...
C'est pas très gentil, ça.
Mais c'est vrai. Quand elle est décédée, beaucoup de gens choisissaient la même chanson d'elle.
Les gens qui doutent.
Les gens qui doutent.
Qu'elle n'aimait pas tellement, elle. Pourtant, c'est une très belle chanson.
Oui,
mais...
et qui a eu un succès incroyable sa mort. Je ne sais pas.
Oui, alors c'est ça qui est un petit peu malheureux avec cette femme. C'est que d'abord, on a cru qu'elle faisait de la chanson pour enfants, alors que de ses 20 à ses 85 ans, elle a chanté... sans discontinuer, je vous ai dit, plus de 700 chansons et les albums pour enfants, qu'elle ne présentait d'ailleurs pas en concert. Elle faisait des concerts pour les chansons adultes. Et en fait, elle s'est assez rapidement autoproduite, parce que dans la mouvance Barbara, Le Marais, tout ça, enfin, Brassens, toute cette génération-là, elle était pas très vendeuse, elle était un peu, je sais pas, elle aimait bien la campagne. Elle avait un look un peu paysan, de grande robe. Elle avait un peu aucune allure, quoi. Et donc on lui a dit non, mais tu dois refaire ton nez et puis tu dois t'habiller comme ci comme ça. Et en fait, elle a dit mais non, je chante mes chansons, je suis comme je suis. Et donc elle a dû s'autoproduire. Ce qui a été très, très difficile, en fait, parce que, on parlait un peu tout à l'heure de ça, mais enfin, je veux dire, elle a dû, elle disait, je gagne tout juste ma vie avec un album et les concerts, parce qu'elle voulait jamais refaire les mêmes choses, justement, donc elle était très créative, et je gagne juste assez avec ça pour faire le nouveau, et grâce à sa musique pour enfants, les enseignants, les écoles ont acheté beaucoup de ses albums pour enfants, et lui ont permis de vraiment continuer à vivre de son métier.
Bon, et donc, la chanson que j'écoute le plus, mais avec les enfants, c'est la chanson de Yaourt. Vous connaissez la chanson de Yaourt?
Eh bien, non. J'en connais pourtant beaucoup. Ben, génial.
Il y a des yaya, il y a des yaourts à tout, il y en a...
Si, je la connais, je pense. Truc, voilà.
Donc, les enfants adorent, évidemment, parce que c'est un petit peu... voilà.
C'est pas ma génération de fabulettes, mais...
C'est tout ce que j'ai. Donc, vous venez ce samedi.
Alors, on va chez Rina ce samedi. Il faut se dépêcher de réserver parce qu'il y a plus que quelques places. En envoyant un mail à allumetteque@gmail.com.
Voilà, je regarde exactement parce que c'est quand même dommage de passer à côté. Donc, alors. Je regarde ce qu'il y a sur le mail, mais c'est un peu étrange. Après, je vais donner un numéro de téléphone. Donc, l'allumette que, mais c'est l.allumetteque, donc l.allumetteque@gmail.com. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Ben non, ben alors c'est ça, voilà. L'adresse est rue de la Teinturie, numéro 18 à Forêt. Voilà. C'est pas loin de la place Saint-Denis. Il y a un tram. Il y a même le train, si vous voulez. Et c'est une ambiance hyper chaleureuse. On est tout près. D'ailleurs, ça ne vous dérange pas d'être si proche des gens
Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien la proximité. Après, c'est un spectacle qu'on a joué justement au Festival Bruxelles-Long l'été passé. Il y avait, on était en plein air et on jouait sur la scène sur laquelle ils font les comédies musicales tout l'été. Il y avait presque 500 personnes en plein air. Je me disais, oh là là. Et en fait, ça fonctionne très bien aussi. Elle-même disait, je ne fais pas non plus... des spectacles que pour une petite jauge, mais je peux m'adapter, je peux faire les deux. Et donc, c'est ça qui est assez chouette aussi avec ce type de concert. Mais j'aime bien aussi les rapports plus intimes avec le public, c'est chouette.
Vous avez l'occasion de le jouer encore? On ne sait pas.
Alors, le 8 juin, on sera au Baïchou, près de Tour et Taxi.
Ah oui.
Mais pour le moment, c'est les dates qu'on a.
C'est bien.
Mais il va sûrement y en avoir d'autres parce qu'on a joué il n'y a pas très longtemps au festival Bienveilleuse au public qui a lieu en ce moment. Et il y a pas mal de gens qui sont venus voir et qui sont intéressés. Donc je pense qu'il y aura des dates supplémentaires.
On serait très fiers de,
De
vous réinviter.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique alors?
Alors, Une sorcière comme les autres. elle a un petit peu bercé mon enfance et je pense que c'est une des chansons féministes les plus belles qui existent.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme.
Rappeler les dates de tous nos invités. Donc Catherine Magis, donc le Up Festival du 21 mars au 1er avril. Joël Strauss, elle joue en tout cas ce jeudi au Wall le 21, donc avec le Astor Kletzmer Trio. Et puis Ariane Rousseau joue ce samedi 23 à l'Allumette, et elle voudrait quand même vous expliquer que ce que vous avez entendu comme version, c'est la version de je sais pas quelle année d'ailleurs. Il y a très très longtemps, oui. Que peut-être en fait, que c'était non, assez basique comme accompagnement.
Oui, mais c'est aussi que c'est mélodiquement un tout petit peu daté, mais que le talent de mon pianiste accompagnateur, c'est pas mon pianiste, du pianiste avec lequel je joue, est vraiment formidable. C'est un pianiste très talentueux et il y a une sobriété et une modernité dans.
En fait, ce qui est essentiel, c'est un peu comme je vais dire du Molière, du Shakespeare, quand le texte est bon. Voilà, on modernise l'interprétation et puis ça reste excellent. Oui. Là, les paroles sont merveilleuses. Oui. Et donc, voilà, je ne doute pas que ce spectacle sera vraiment merveilleux.
Mais je serais ravie de vous y voir et d'échanger avec vous, parce qu'on parle beaucoup après le spectacle.
Super. Aussi. Alors moi, je vais vous parler maintenant. Donc, on va passer l'interview de Théo Ascolovitch. Peut-être que vous connaissez le journaliste Ascolovitch d'Europe 1. C'est son fils. Alors... C'est un comédien et à 18 ans ou à 20 ans, il va nous dire dans l'émission, il a eu un cancer des testicules. À 20 ans, c'est triste. Et il a eu 66 jours de traitement et il s'en est sorti. C'est pour ça que son spectacle s'appelle 66 jours. Il vient le jouer au Centre culturel Ducle le 14 avril. Je vous en parle maintenant parce qu'il n'y a que un jour. Donc, il faut se dépêcher, c'est au Centre culturel Ducle. Et puis voilà, je vous dis au revoir mesdames,
au revoir.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
venez voir sous les toiles,
c'est
dans les salles.
C'est sûr que je viendrai.
Bouger, Bruxelles est belle.
Et samedi, et oui.
Super.
C'est ça.
Ah ben on se voit chez Rina.
Absolument, et nous on se voit aussi.
Okay.
J'ai des dates. Et voilà, et on écoute Théo, à bientôt, au revoir.
À bientôt, merci.
Venir me parler par cette chaleur.
Avec
nous
plaisir.
Sommes à Avignon, dans la salle de presse. C'est nouveau. On a une salle de presse pour nous. C'est vraiment sympa. Alors, vous êtes, cette année, vous êtes là pour jouer donc, La maladie de la famille M.
C'est ça.
Mais moi, je vais vous voir pour parler de 66 jours qui passera en Belgique chez nous très
carrément,
bientôt.
Ouais. Voilà. Et que j'avais joué l'année dernière ici.
Voilà, que Marc Kawa m'a vu l'année dernière, dont il est tombé amoureux, et donc qui vous fait venir cette année.
J'ai avec grand plaisir.
Voilà, à suivre sur donc, ouvrirlesportes.be pour avoir les dates et les lieux exacts. Alors, 66 jours, ça parle de quoi ?
66 jours, ça, c'est un peu une histoire peut-être un peu intime, on va dire. Mais le pitch, grosso modo, c'est un mec de 22 ans qui tombe malade et qui attrape un cancer, quoi. Et on suit son parcours jusqu'à tout son traitement, jusqu'à sa rémission, quoi.
Pendant 66 jours.
Oui, c'est ça. Avec un parallèle avec le mondial de foot 2018 et la victoire de l'équipe de France. Désolé pour nos, pour nos confrères belges. J'ai eu un petit moment sur le match France-Belgique dans le spectacle.
Vous allez vous faire rire. Hein,
c'est fort possible.
Vous êtes prêts?
Oui, je suis prêt. Je suis prêt.
Alors, vu de l'extérieur, on peut dire que 66 jours pour une rémission d'un cancer, c'est rien.
Alors, j'ai un peu romantisé. Ouais, j'ai voulu faire une romance un peu sur les dates. C'est pas vraiment 66 jours de traitement, mais c'était 66 jours annoncés. Et après, il y a eu plein de complications, de trucs comme ça, etc., etc. Mais bon, c'est une histoire qui finit bien. Et puis, le pitch peut paraître un peu triste, une histoire un peu terne, quoi. Mais c'est un spectacle que j'ai raconté avec beaucoup d'humour. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce spectacle.
Oui, mais qui sort avec un message. Moi, à chaque invité, je demande, mais au fond, à quoi sert le théâtre ?
Ouais, bah alors moi, quand je l'ai écrit et quand je l'ai commencé à le jouer, à le mettre en scène, j'avais pas comme objectif, très sincèrement, de porter un message ou d'être porte-parole de quoi que ce soit. J'avais juste envie de raconter cette histoire, ça me paraissait un peu nécessaire pour moi. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis je savais même pas que c'était un spectacle quand j'ai écrit. J'ai des partenaires qui m'ont dit, vas-y, il faut le monter. Je l'ai créé avec le Centre Dramatique National de Normandie à Caen, et avec l'aide de Théâtre Ouvert aussi. Et puis c'est parti comme ça, mais c'est eux qui m'ont poussé à le jouer. Et puis après j'ai commencé à le roder, il y a eu énormément de presse, des choses dont je m'attendais pas du tout, quoi. Et après c'est devenu un spectacle qui m'a un peu dépassé. Et je suis trop heureux maintenant qu'on s'en serve pour à des fins, enfin pour aider ou pour porter un message. Ouais, carrément, je suis trop content que ça serve à ça, mais c'était pas le but premier, très sincèrement.
Alors c'était quoi le but premier ?
Vraiment, j'avais envie de raconter cette histoire. Moi, maintenant j'écris beaucoup, je sors des pièces, j'édite mes trucs et tout, mais ça c'était mon premier texte. Et donc je savais même pas vraiment que je savais écrire ou que j'écrivais quand j'ai commencé à faire ce texte. Je l'ai écrit pendant le premier confinement.
Vous étiez plutôt comédien au départ.
Ouais, à la base, je suis comédien. J'avais mis en scène un petit peu, mais je n'étais pas du tout auteur, quoi. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à l'être, mais c'était vraiment un premier essai, celui-ci.
Alors, le Covid, ça a été... Il y a deux écoles. Il y a ceux qui étaient figés, total, qui étaient bons à rien. Et puis ceux qui en ont profité, comme vous, alors, pour tenter.
Moi, étrangement, ça m'a un peu rappelé l'hôpital, quoi. À l'époque, j'habitais dans un appartement à Paris, pas un très grand appartement. On était enfermés, j'avais un peu... c'était deux ans et demi après mon traitement. Je me suis dit, ah putain, il y a des similitudes vachement avec ce que je pouvais ressentir quand j'étais à l'hôpital, quoi. Bon, avec beaucoup plus de joie, parce que déjà, j'étais pas le seul à avoir le temps qui s'arrêtait. Ouais. Et puis en plus, j'étais en pleine santé, donc c'était différent. Mais je me suis dit, bon, que j'avais envie de raconter un peu cet isolement. Et j'ai commencé à écrire jour par jour un peu ce qui m'était arrivé, comme un carnet de bord, quoi, mais sans...
Mais deux ans et demi après, donc c'était encore plein dans votre tête.
Et puis, c'était pas trop un spectacle. Et à un moment, j'ai trouvé une espèce de dramaturgie avec des allers-retours pour pas que ça soit linéaire. J'ai trouvé vachement d'humour là-dedans, puisque sans faire des blagues, c'est un spectacle drôle, mais c'est juste qu'en fait, j'ai remarqué, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est moi qui me fais le plus rire au théâtre. C'est peut-être les situations les plus dramatiques. Mmh. C'est juste la manière dont on les raconte. Un mec qui tombe sur une peau de banane, c'est dramatique pour lui, ou je sais pas, la main dans le placard, enfin les codes un peu classiques du théâtre de boulevard, quoi. Ou même chez Shakespeare, chez Molière et tout ça. Et donc je me suis dit, bon bah racontons ces histoires qui pour le personnage sont terribles, mais qui au fond sont des viviers d'humour assez...
Et puis c'est peut-être un des seuls moyens de passer au-dessus de tout ça.
Ouais, et puis pour pas... Ouais, et puis moi je supporte pas au théâtre, en tout cas, rendre une histoire pathos.
C'est ça.
Et j'ai l'impression qu'on prend un peu les gens en otage si on raconte des choses tristes en surchargeant de...
Déjà, le pitch est triste.
Ouais, hein, c'est ça. Après, c'est une histoire qui finit bien. Oui. C'est plus une ode à la vie qu'un spectacle sur la mort. Et puis même l'hôpital, le cancer, etc. C'était un cadre, je crois, vachement, pour parler de beaucoup d'autres choses. Ce personnage, il parle du coup de son rapport à la mort, évidemment, ce qui rend la chose universelle, parce que c'est peut-être un peu ce qui nous lie tous les êtres humains, c'est qu'à la fin, on meurt, quoi. Ouais, ou le rapport à la famille qui accompagne, le rapport à la famille tout court, aux passions, à la solitude, à l'enfermement. Et donc, la maladie, c'était vraiment un cadre pour pouvoir explorer un peu tous ces trucs, quoi. Et puis, à la masculinité aussi, parce que qu'est-ce que c'est quand on est un jeune homme, parce que c'est un cancer des testicules, donc qu'est-ce que c'est quand on est un jeune homme d'apprendre ça, quoi.
Bien sûr. Et alors maintenant, ça fait 5 ans, c'est ça?
Ça fait 5 ans, là, ouais. Ça y est, c'est fini.
Ça y est, ça, là, c'est la vraie rémission totale.
On dit que c'est 10 ans.
Ah oui.
Mais moi, mes médecins, ils m'avaient dit qu'au bout de 2 ans, sans rechute, c'était fini.
Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce que ça change quelque chose dans la tête.
Franchement, quand je suis sorti de l'hôpital, je m'étais dit, ah ouais, ma vie, c'est plus la même. Je vais profiter plus des gens que j'aime. Je ferai plus attention à tout. Je suis un homme nouveau. Mais en fait... 2-3 mois, peut-être un an après, je commençais à être anxieux sur d'autres choses, colérique sur des petites choses.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la vie continue. C'est que la vie, elle a rattrapé le truc. Donc au final, ouais, ça m'a pas tant changé. Si, j'imagine quand même un peu, mais tout le monde a des petites épreuves qui font qu'on se construit.
En 5 ans, à votre âge, on change, on évolue quand même. On change. D'autres expériences.
Ouais, carrément. Ça m'a changé beaucoup, ça m'a permis d'écrire. Maintenant, c'est mon activité principale. Donc
Qu'est-ce que les gens vous disent à la sortie de la pièce?
Franchement, j'en ai joué pas mal des spectacles, mais j'ai jamais eu des retours comme ça. Et c'est toujours un peu émouvant pour moi et surprenant, parce que c'est quand même un truc un peu intime. C'est un peu mon bébé, c'est mon premier texte que j'ai écrit. Donc quand je vois les réactions, je suis toujours un peu surpris. Non, les gens sont émus, les gens rigolent beaucoup. On me dit que c'est un spectacle qui parle de la vie, que c'est un spectacle qui fait du bien, que c'est nécessaire.
En tout cas, c'est très cool.
Bon, après, les gens qui n'aiment pas, j'imagine qu'ils ne restent pas. Donc, je ne vais pas avoir les retours négatifs.
C'est très courageux, en tout cas.
Ouais, c'est gentil.
Et on rappelle alors, donc, le titre, c'est très facile. C'est
66 jours.
Voilà. Et puis, on vous accueillera en Belgique. Vous êtes déjà venu en Belgique?
Ouais, je suis déjà venu en Belgique plusieurs fois. Ouais. Et j'avais joué mon premier spectacle. Le premier spectacle que j'ai fait, c'était un auteur belge. Il s'appelle Ismaël Saïdi,
oui.
Il s'appelait Djihad et j'avais pas mal joué en Belgique.
Vous avez joué dans Djihad?
Oui, je jouais dans Djihad.
Et uniquement dans Djihad de lui? Parce qu'il y a d'autres pièces.
Il m'avait proposé Eden, mais pour des problèmes de date, je ne pouvais pas.
Ah oui, Djihad, ça c'est beaucoup joué. En Belgique et en France aussi.
Et en France. Moi, j'ai intégré la deuxième équipe ou troisième équipe française. Et j'avais 20 ans, quoi. C'était mon premier spectacle. Donc c'était il y a quelques années maintenant.
Donc premier spectacle, une réussite.
Ouais,
première écriture, une réussite. Bon, je croise les doigts pour le suivant, là, dont vous êtes donc metteur en scène et acteur, mais pas auteur, c'est ça?
Ouais, alors ça, c'était ma première mise en scène, La maladie de la famille. Je l'avais fait même avant 66 jours, donc là, c'est une reprise. Mais ma prochaine création, c'est un texte que j'écris aussi, qui va se jouer au Centre dramatique des écritures contemporaines, à Théâtre Ouvert. Toujours avec les mêmes partenaires, avec la Comédie de Caen, Théâtre de Suresnes, etc. S'appelle Zoé et maintenant les vivants. Et c'est aussi un peu du théâtre où je me raconte. Enfin, je raconte une famille, un père et son fils et sa fille après la mort d'une mère. 10 ans après, ils racontent les étapes de leur reconstruction, etc., etc. Toujours avec de l'humour, des allers-retours.
Bon, et on reverra à Avignon, peut-être?
Sur celui-ci, je suis pas sûr.
Ah bon?
C'est un autre réseau un peu plus... je suis plus avec mes partenaires un peu publics. On verra comment ça tourne.
Bon, en tout cas, on vous attend donc en Belgique pour 66 jours.
Bah ouais, carrément.
Merci beaucoup, Théo Oskolovitch.
Merci à vous.